Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans La Voix des Songes. La semaine dernière, nous avons fait la découverte d'un personnage haut en couleur, Élius Aristide. Ses témoignages à la fois oniriques et autobiographiques en ont fait un témoin exceptionnel de son époque, aussi bien pour les historiens que pour les psychologues, en particulier pour celles et ceux qui s'intéressent de près aux rêves. Dans ses discours sacrés, Élius Aristide retranscrit nombre de ses rêves qui rendent compte de sa relation très personnelle avec le dieu de la médecine, Asclépios, dont nous avons déjà parlé dans les émissions précédentes. Cela nous offre la possibilité d'une étude de cas que je vais tenter de vous présenter avec toute la prudence nécessaire. En effet, il est difficile, voire impossible, d'être affirmatif quant à un cas clinique dont on ne dispose que des retranscriptions parcellaires, remontant à une époque dont les codes et les mœurs nous sont étrangères. La tentation d'affirmer des vérités concernant un sujet que l'on ne connaît qu'à travers ses écrits, bien que ce soit ses propres rêves, doit être proscrite et on se limitera à émettre des hypothèses interprétatives sur la structure psychique d'Élius Aristide à partir de son histoire et de ses rêves. Pour commencer, quelques éléments biographiques. Publius Élius Aristide Théodoros, plus connu sous le nom d'Élius Aristide, est né le 26 novembre 117 près de la ville de Pergame, dans l'actuelle Turquie. Son père, Eudaimon, était prêtre d'un temple de Zeus. Élius Aristide a donc grandi dans un environnement spirituel, mystique et religieux, auprès d'un père qui avait pour fonction d'être un intercesseur entre les dieux et les hommes, et plus particulièrement avec Zeus, le maître des dieux et des hommes. Élius Aristide reçut une éducation soignée, durant laquelle il se rendit un an en Égypte, où il prit connaissance des cultes d'Isis et surtout de Sarapis. En 144, le rhéteur se rend à Rome. Ce voyage fut le début d'une grande carrière d'orateur, mais marqua aussi le commencement de sa maladie et de son long calvaire qui prit fin en 181. Pour rappel, comme nous le mentionnions dans la semaine précédente, Élius Aristide souffrait, entre autres, de catarrhes, toux violentes, crachements de sang, douleurs d'estomac et de ventre, maux de tête, paralysie de la face, ankylose du cou, rhumatisme, opisthotonos, fièvre et tumeur. Les premiers symptômes de la maladie d'Élius Aristide se sont déclarés pendant l'hiver 142-143. Et ce n'est que l'année suivante qu'il part pour Rome, déjà affaibli. À cause du froid et des conditions de voyage, le mal empire. Il développe de vives douleurs aux oreilles, ses dents lui font mal également, il souffre d'asthme dans la poitrine et de crises de fièvre, mais parvient tout de même jusqu'à Rome. Les médecins romains le soumettent à de nombreux traitements successifs, purges, détersifs, scarification, ventouse, mais ne parviennent pas à identifier les causes du mal d'Élius Aristide. Impuissant, il demande son rapatriement à Smyrne, sur la côte turque de la mer Égée, sa région natale. Malheureusement, les médecins locaux sont tout aussi impuissants que les médecins romains. Alors qu'un an s'est écoulé depuis l'apparition des premiers symptômes, les médecins sont toujours incapables de poser un diagnostic sur la maladie dont souffre Élius Aristide. À court de remèdes, il lui recommande même de se rendre au bain d'Agamemnon, situé non loin de là, et réputé pour leur source chaude aux vertus curatives. Ainsi, la science médicale de l'époque, avec son approche uniquement physiologique, ne semble pas suffisamment avancée pour traiter le cas d'Élius Aristide. Alors que ce dernier ne peut que constater l'impuissance des médecins et perd confiance dans la capacité de la médecine à le sauver, il reçoit la première épiphanie onirique d'Asclépios qui lui donne l'ordre de marcher pieds nus. Voici le rêve. C'est alors que pour la première fois, le sauveur commença de rendre oracle. Il m'ordonna en effet de marcher nu-pied et je criai dans mon rêve comme si j'étais en état de veille et que le rêve fût déjà accompli. Grand et Asclépios, l'ordre a été accompli. Voilà ce qu'il me semblait crier en rêve, en même temps que je marchais. Avec notre regard contemporain, et notre approche psychothérapeutique, nous pouvons constater que face à la souffrance du corps, qui ne fait qu'empirer malgré les efforts d'Elius Aristide pour se soigner, face finalement au réel de la mort qui s'annonce et qui met à mal son fantasme de toute puissance, comme il le signale lui-même dans ses écrits, eh bien, là où la raison échoue, le fantasme peut opérer. À partir de ce rêve, la dévotion d'Elius Aristide pour le dieu de la médecine Asclépios fut sans limite. Cette dévotion était caractérisée notamment par une expiation violente et radicale des maux qui le rongeaient, et en parallèle, une identification au dieu. Les rêves et le rituel d'incubation qui les précède étaient au cœur de la relation singulière et personnelle qu'Elius Aristide entretenait avec Asclépios. Comme nous l'avons abordé dans les émissions précédentes, les rêves étaient considérés durant l'Antiquité comme le moyen privilégié d'entrer en communication avec les dieux. Et la pratique de l'incubation devait permettre de faciliter l'émergence et la réceptivité de tels oracles oniriques. Pour plus de précision, je vous invite à réécouter les émissions précédentes sur le sujet. Parmi les rêves caractéristiques de sa dévotion sans limite, on retrouve quatre expériences oniriques à peu près à la même période, durant lesquelles Asclépios invite le rêveur à prendre un bain de mer durant l'hiver et alors qu'il gèle. Et à chaque fois, Elius Aristide s'exécute sans jamais remettre en cause le discours sacré qu'il aperçut en rêve, en prenant bien soin, comme à son habitude, de se mettre en scène en se faisant escorter par ses amis et une foule de curieux, davantage présents pour rire de son excentricité que pour assister à un miracle. Car de miracle, il n'y en a pas eu. Et il n'y en aura jamais. Cependant, cela n'a jamais entamé sa foi en Asclépios, bien qu'il soit tout aussi impuissant à le guérir que les médecins. L'une des raisons pouvant expliquer sa confiance absolue en Asclépios nous est donnée par Elius Aristide lorsqu'il décrit précisément ses sensations suite à l'un de ses bains de mer glacés prescrits par le dieu. Ce qui suivit, qui pourrait le décrire ? Tout le reste du jour, et ce que de la nuit je passais au lit, je conservais cet heureux état qui avait suivi le bain. Je ne sentais le corps ni plus sec, ni plus humide. Rien ne se relâcha de la chaleur, rien ne s'y ajouta. Et cette chaleur ne ressemblait pas non plus à ce qui résulte pour un chacun de quelque artifice humain, mais c'est une sorte de chaleur solaire continue qui donnait une force égale à travers tout le corps et sur toute la peau. Il en allait de même pour l'entendement, car ce n'était pas comme une volonté manifeste, et l'on n'eût pas dit non plus qu'elle ressemblait à une joie humaine, mais c'était une sorte de contentement ineffable qui rendait toute chose inférieure au moment présent, en sorte que, même à la vue du reste, il me semblait ne rien voir. J'étais ainsi tout entier appliqué au dieu. La jouissance procurée par ce bain sacrificiel est à la fois indescriptible, mais surtout inédite. En tout cas, ce n'est pas à travers sa relation humaine avec des médecins qu'il obtiendra une telle satisfaction psychique, malgré l'échec du traitement physique. En effet, lorsque précédemment nous évoquions l'idée que la médecine n'était pas suffisamment avancée pour traiter efficacement le cas d'Elius Aristide, ce n'est pas tant sur le plan technique que nous y voyons des limites. Certes, aujourd'hui, l'approche psychiatrique et médicamenteuse peut soulager bien des cas. Mais comme c'est souvent le cas, et Elius Aristide en est un antique exemple, il est souvent plus pertinent de parler à son âme, à sa psyché, plutôt qu'à son corps. Et c'est aussi l'une des bases de la révolution psychanalytique qui se produira au tournant du XXe siècle. Ainsi Freud s'exprimait. Pour ces phénomènes psychologiques considérés en tant que symptômes morbides, l'explication va de pair avec la guérison. quand on a pu découvrir dans l'esprit du malade les sources d'une telle production pathologique, elle cesse et le malade est délivré. Autrement dit, certains symptômes, bien que physiques, n'ont pas forcément une origine somatique, mais bien psychique. Et la délivrance, dont parle Freud, ne peut donc pas passer par une attention particulière au corps, mais au contraire, par une attention particulière à l'esprit et aux idées qui animent le patient. Les médecins de l'époque l'ignoraient. Élius Aristide a donc trouvé refuge auprès d'Asclépios. L'autre ressort de la dévotion d'Élius Aristide pour Asclépios repose sur un processus d'identification à la divinité qui s'exprime dans de nombreux rêves. Par exemple, un jour, j'entendis les propos suivants concernant mes conversations et mes relations avec le Dieu. Asclépios disait qu'il fallait que mon esprit soit changé de son état présent et, ayant été changé, qu'il s'associe à la divinité. S'y étant associé, qu'il soit supérieur à la condition humaine. Il n'y avait rien d'étonnant, disait-il, ni d'être supérieur après s'être associé à la divinité, ni, si l'on était supérieur, d'être associé à la divinité. Ce processus d'identification à Asclépios, donc un dieu, apparaît ici de manière évidente comme une compensation narcissique. La supériorité d'Élius Aristide sur ses contemporains dans les domaines de la rhétorique et de la poésie était incontestable. Il était un rhéteur redouté, avec la réputation de n'avoir jamais perdu une joute oratoire, et un poète inspiré dont les œuvres sont encore étudiées aujourd'hui. Cependant, sa supériorité sur ses contemporains a sans cesse été mise à mal au cours de son existence, par ses nombreux symptômes physiques qui le faisaient souffrir et l'affaiblissaient. La maladie, et en particulier les longues maladies chroniques, difficiles voire impossibles à soigner, nous place dans une position d'impuissance qui impacte l'ego plus ou moins violemment. Cela peut aller jusqu'à son effondrement qui ébranle la structure psychique du sujet, ce qui semble avoir été le cas pour Élius Aristide. Sa relation très personnelle avec un dieu, Asclépios, par l'entremise de rêves théophaniques, qui ne sont donc jamais soumis à interprétation, jamais questionnés, car c'était la règle à l'époque, va avoir un effet narcissique compensatoire à même de soutenir un ego ainsi mis à mal par sa très grande faiblesse physique. La relation transférentielle entre Élius Aristide et Asclépios, entretenue par les rêves, est un véritable transfert d'amour aux vertus thérapeutiques. Certes, on n'observe aucune amélioration physique, mais cette relation psychique procure un tel enthousiasme au rêveur qu'elle est à même de le porter dans sa vie quotidienne. Si Élius Aristide réside souvent et longtemps dans les temples d'Asclépios, il n'a pas pour autant renoncé à une vie sociale de premier plan, soutenue et encouragée par Asclépios. En effet, on retrouve de nombreux rêves où le dieu souffle ici le titre d'un discours, là quelques vers ou à d'autres occasions un thème à aborder dans ses récits. La relation transférentielle, permise par les rêves, a donc eu un véritable effet psychothérapeutique. Au final, cette relation à Asclépios, que certains ont pu qualifier de fanatique, lui a en tout cas était très bénéfique, et malgré tous les maux dont il souffrait, il s'est éteint à l'âge de 64 ans, ce qui était bien supérieur à la condition humaine de son époque, laissant aux générations futures une œuvre qui, elle, n'a pas disparu. À la suite du cas d'Élius Aristide, nous nous intéresserons à l'expression des croyances à travers les rêves. Dans notre perspective psychothérapeutique, nous irons questionner le lien entre la foi qui peut s'exprimer dans les rêves et les doutes, voire l'absence de doute, que peut exprimer le rêveur ou la rêveuse dans le cadre d'une analyse. On se retrouve donc la semaine prochaine, et d'ici là, faites de beaux rêves !